Donc je vais au moins en profiter pour vous présenter, mais est-ce la peine de présenter Pierre Bordage ? Voilà, c'est la peine. Pierre Bordage, l'un des plus grands auteurs de science-fiction que nous ayons actuellement en France, qui est notamment, on va juste citer La Fraternité du Panca, dont le quatrième tome est devant lui. Pierre Bordage, c'est bien, mangez-en, lisez-en. Et en plus, il est sympa, il fait de jolies dédicaces. Voilà.
Oui,
c'était complet. C'est ça. Et il y a même un petit recueil de nouvelles qui vient de sortir chez Flammarion.
Oui, enfin, c'est un vertu pédagogique, c'est dans Étonnant Classique, voilà, je suis mort, merci. Comme par Javel, d'ailleurs. Qui sont 5 nouvelles qui ont été choisies par Fabien Clavel dans le recueil de nouvelles de la Nouvelle VTM. Donc, ils sont commentés avec tout un travail pédagogique. J'ai très joli petit livre à destination des collèges.
Voilà. À ma droite, Jacques Baudou. Que vous avez sans doute lu dans le monde pendant de nombreuses années. Donc vous avez sans doute lu les ouvrages notamment sur la fantaisie et vous avez peut-être lu ses choix puisqu'il a été président du prix Imaginal pendant de nombreuses années et c'était
10 ans.
10 ans, voilà. Et il arrête. Il jette l'éponge et il est avec nous. Et c'est un des grands spécialistes de l'imaginaire en France et on est ravis de l'avoir à cette table ronde. Je présenterai Yordal quand il sera là. Éventuellement. Simplement, on va faire peut-être rapidement. Alors rapidement, on va brosser la vie de René Barjavel. Je vais parcourir l'article que vous trouverez sur Wikipédia autour de René Barjavel. René Barjavel, qui est né le 24 janvier 1911 à Nyons dans la Drôme et qui est décédé le 24 novembre 1985 à Paris. Voilà, c'était un écrivain et un journaliste français, notamment connu pour ses romans d'anticipation, où science-fiction et fantastique expriment l'angoisse ressentie devant une technologie que l'homme ne maîtrise plus. C'est intéressant comme définition, parce que ça nous permet d'en parler. Il a commencé le journalisme à 18 ans, notamment au Progrès de l'Allier à Moulins. En 1934, c'est la date de son premier roman, Colette à la recherche de l'amour. En 1935, il devient secrétaire de rédaction de la revue aux documents, puis chef de la fabrication des éditions de Noël. Il a collaboré à divers journaux, en particulier au Merle Blanc, comme critique cinématographique. Il a été démobilisé en 1940. Il a fondé à Montpellier l'écho des étudiants. Pendant la guerre 39-40, ce sera peut-être la Seconde Guerre mondiale. Après avoir été démobilisé, il a retrouvé sa place de chef de fabrication chez De Noël. Et c'est pendant la guerre que son premier roman d'anticipation Ravage a été publié. Alors Wikipédia dit que Ravage a été publié pendant l'occupation sous la forme d'un feuilleton dans l'hebdomadaire Je suis partout.
Bah, c'est
mais voilà, Jacques.
Ils sont trompés de titre, c'est Voyageur imprudent. C'est le suivant.
Voilà. Donc on pourra en reparler. En 1945, il va diriger quelques mois les éditions de Noël, puisque Robert
de Noël est assassiné.
De Noël a été assassiné. Au 2 décembre. Ce qu'on connaît peut-être moins, c'est que René Barjavel a aussi eu pas mal de. A eu pas mal une carrière, tout du moins, dans le cinéma, puisque on lui doit en partie une partie de certains films comme Le Guépard, Don Camillo ou bien encore Les Misérables. Voilà, et côté roman, on peut citer notamment La Nuit des Temps, qui est paru en 1968. Voilà. Wikipédia le considère comme le précurseur de la science-fiction à la française. Alors peut-être que c'est un point sur lequel on pourra discuter. Voilà. Mais c'est un peu a posteriori qu'on rattache les premiers romans de Barjavel comme Le Voyageur imprudent et Ravage au genre de la science-fiction, tout simplement. On peut citer aussi Le Diable l'emporte, 1948. J'avais noté tout ça. Voyage en Ravage 1942-43, Le Voyageur imprudent 1944, Le Diable emporte 1948, La Nuit des Temps 1968, puisque l'article nous dit que dans les années 60, Barjavel est très en phase, plus ou moins consciemment, on peut se poser la question sur ce bout de phrase, avec les idées de mai 1968. Et moi j'aime bien quand on dit un auteur est plus ou moins consciemment en phase avec les idées de son époque.
Alors là, c'est assez amusant parce que, en fait, La Nuit des Temps a été écrit à la demande d'un cinéaste avec lequel Barjavel travaillait, qui est André Cayatte. Il écrit La Nuit des Temps, qui devait être un scénario et puis qui devient un roman. Et ensuite, il écrit un autre roman et scénario en même temps qui s'appelle J'irai à Katmandou, qui a été adapté au cinéma et qui raconte l'histoire de jeunes gens qui partent à Katmandou sur les pas des hippies et des beatniks. Est-ce que c'était vraiment en phase avec l'esprit de 68? Ça, c'est une bonne question.
Et donc, voilà, je vais pas vous égrener toute sa bibliographie, mais donc Barjavel décède en 1985. Il y a un dernier roman qui s'appelle La Peau de César, qui est publié cette année-là. Ce qui est intéressant sur ce personnage, c'est de savoir un petit peu, d'abord, ce qu'on en retient aujourd'hui, est-ce qu'on va en retenir les auteurs qu'on aura autour de cette table, si on a enfin à retrouver ailleurs d'âge, mais en tout cas, on posera la question à Pierre Bordage. Et puis, on se posera peut-être aussi un petit peu la question sur le rapport entre l'auteur et l'homme. C'est une question qui est intéressante parce que c'est difficile de trancher. Est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'auteur? Est-ce qu'on peut séparer Pierre Bordage, par exemple, de ses écrits? Même si, là je rigole évidemment, hein, mais peut-être que c'est peut-être un petit peu plus problématique avec des auteurs comme Barjavel.
C'est pas problématique pour un auteur comme lui, Ferdinand Céline, où malgré toutes les saloperies qu'il a écrites pendant la guerre, il est toujours considéré comme un grand écrivain français.
Ouais, et en même temps, on a vu plein de polémiques sur les commémorations.
Ouais.
Oui, ça reste problématique aussi, je trouve. Justement.
Ah, écoutez. Quant à l'enquête de « Je suis partout, faut-il tuer les Juifs ?» Oui, Ferdinand Céline répond, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème pour le situer politiquement.
Bien sûr.
Ouais. D'accord, bah, nous sommes d'accord.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que justement, avec les événements récents, on s'est aperçu que cette question de séparer ou pas, etc., bah, c'est problématique, même pour Céline.
Comment ce qu'on appelle la critique académique sépare très très bien l'homme de l'œuvre.
Une question peut-être, Jacques. Qu'est-ce qu'il faut retenir de René Barjavel sur le point de vue science-fiction?
Moi, j'appartiens à une génération qui est venue à la science-fiction moderne par Barjavel. Pour une raison simple, c'est que quand j'avais 17 ans, Ravage est sorti en livre de poche. Et à l'époque, il n'existait pas de collection de poches de science-fiction. C'est sorti d'ailleurs dans livre de poche normal, sans titre de science-fiction. Et la caractéristique de Ravage, c'est que c'est un roman post-apocalyptique, c'est-à-dire c'est un roman qui se situe après qu'il y ait une catastrophe nucléaire. Le roman nous décrit retour à une civilisation rurale. Et manifestement, la petite communauté qui se forme et dont Barjavel nous décrit l'existence va poursuivre son édification en prenant bien garde de ne pas reprendre une voie technologique. La catastrophe qu'imagine Barjavel, c'est la fin de l'électricité, si je me rappelle bien. Et donc, c'est toute une civilisation machinique qui est mise en hors-jeu. Et les personnages de Barjavel vont décider de continuer, créer une civilisation, poursuivre une civilisation qui sera une civilisation rurale non machinique. Alors, on a le roman paraît en 42. C'est un moment où, vous savez, dans l'histoire française, il y a un vieux maréchal à la tête de l'État français qui a trouvé un slogan absolument magnifique qui est le retour à la terre. Et souvent, on compare la date de parution du roman et l'idéologie pétiniste du retour à la Terre en disant c'est un roman pétiniste. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. D'abord parce que tous les romans post-apocalyptiques qui décrivent une société d'après une catastrophe sont des sociétés, décrivent des sociétés régressives. Et le plus célèbre d'entre eux, qui s'appelle Un cantique pour Leibovitz, c'est une post-apocalypse nucléaire. Finalement, grâce à des espèces de moines qui recueillent des, qui essaient de rassembler tout l'héritage du savoir de la civilisation d'avant, on repart vers une nouvelle civilisation et à nouveau se produit une apocalypse nucléaire. Donc c'est un thème, si on le traite, on aboutit forcément à un type de société qui est un type en régression par rapport à celle que nous connaissons. Alors, il faut faire la part des choses. Est-ce que Barjavel était pétiniste ou est-ce que... Ce que je peux vous dire, moi, j'ai pas d'argument spécifique, je ne me suis pas penché sur les écrits politiques de Barjavel. Ce que je peux vous dire, c'est ce que lui a répondu à une certaine époque. Il était un disciple, il a été l'élève d'un disciple de Gurdjieff, qui a été dans les années 20-30 en France une espèce de gourou de philosophie occidentalo-orientale qui a impressionné pas mal de gens et qui était un gourou anti-technologie. Et Barjavel dit que c'était cette inspiration anti-technologique qu'il a développée dans Ravage. Le roman suivant, Le Voyageur Imprudent, qui a été édité en livre de poche, mais bien après, est un roman sur le voyage dans le temps qui reste un des vraiment très grands classiques du voyage dans le temps, avec une utilisation très astucieuse du paradoxe temporel. Puisque si vous ne connaissez pas l'histoire, il y a un bref petit passage. Ça se passe au siège de Toulon pendant la Révolution française. La ville est assiégée par les troupes anglaises et elle est défendue par un petit général corse du nom de Buonaparte, avec une armée républicaine. Et un jour, un des soldats de l'armée républicaine, qui est un voyageur du temps, parce que lui, il a appris une machine à explorer le temps, il s'est retrouvé au siège de Toulon. On lui confie la garde d'un prisonnier en lui disant, voilà, si cet homme essaie de s'évader, tu prends ton fusil et tu le tires. Et c'est ce qui se passe. L'homme est un aristocrate, il s'est introduit dans la ville pour essayer de voir quels étaient... en quel état était la défense, où on pourrait percer ce siège. Évidemment, on lui a donné l'ordre de manière à ce que cet espion aristocrate ne puisse jamais transmettre les informations aux Anglais. Et à partir du moment où le type essaie de s'évader, notre héros prend son fusil, tire sur l'aristocrate. L'aristocrate, il le tire bien, le tue. Et au moment où l'aristocrate... expire, rend son dernier soupir, d'un seul coup notre héros disparaît en fuite. Alors, l'explication est très simple, c'est qu'il vient de tuer son arrière-arrière-grand-père. À un moment où celui-ci n'était pas marié, il n'avait pas d'enfants, donc pas de petits-enfants. Et comme notre arrière-arrière-petit-enfant a disparu, il ne peut pas avoir tué sur son arrière-arrière-arrière-grand-père. Donc celui-ci réapparaît. Et notre héros réapparaît lui aussi, prend son fusil, lui tire dessus, et on a ainsi un paradoxe temporel tout à fait intéressant. Je crois que c'est celui qui montre le paradoxe temporel de la meilleure manière, avec un circuit complètement fermé. Alors après, les romans que Barjavel écrira par la suite sont des romans nettement moins intéressants et qui n'apporteront pas grand-chose à l'histoire de la science-fiction, en particulier le roman dont nous a parlé Jérôme, La nuit des temps, en fait, a été accusé d'être un plagiat, parce qu'il existe un roman qui était paru au masque, qui est basé exactement sur le même scénario. Voilà, en gros. Donc, l'importance de Barjavel pour la science-fiction, véritablement, c'est ces deux premiers romans, qui ont été publiés à une époque où il n'y avait pas de romans de science-fiction en France, Et ce n'est que quelques années après, c'est dans les années 50, avec Boris Vian, quand Boris Vian a commencé à publier, à faire publier des nouvelles dans des journaux et à traduire Le Monde du A de Van Vogt, qu'on a publié chez Stock un roman de Jack Williamson, que la science-fiction moderne américaine est apparue, et qu'à partir de ce moment-là, on a vu se développer une vraie science-fiction française. Barjavel, c'est une espèce de petite enclave temporelle. Alors des fois, on dit que c'est la troisième génération de la science-fiction française. Génération, c'est peut-être beaucoup dire, puisqu'il est seul à cette époque-là à écrire de la science-fiction.
Ayardal nous a rejoint. Voilà.
Je m'excuse, je ne vois pas passer l'heure. C'est un festival dans lequel on s'ennuie tellement. Que, voilà, tous les 3 mètres, quelqu'un m'arrête, me demande quelque chose, et je lui dis, bah oui, il est 8h45, pourquoi ?
Est-il utile de vous présenter Ayardal ? Peut-être vous dire aussi que, comme Pierre Bordage, Ayardal, c'est bon, mangez-en, notamment son dernier roman, Résurgence, mais il y a aussi Domaine Oasis et Transparence, et la Bohème et Libraire, enfin, et tous les autres. Voilà. Une question, alors peut-être un peu plus d'histoire pour qu'on comprenne bien et peut-être qu'on fasse vraiment toute la lumière. Est-ce qu'à cette époque, Jacques, le fait de publier dans Je suis partout est un engagement politique pour un texte de fiction ?
Enfin, tout alors, du moins, l'engagement politique, il est évident pour un certain nombre d'auteurs. Moi, j'ai eu la curiosité d'aller consulter une collection de Je suis partout à la BN. Et on trouve deux catégories d'auteurs dans Je suis partout. Il y a les idéologues. Et les idéologues, c'est des idéologues absolument virulents, pas seulement sur, comme dans le cas de la grande enquête sur faut-il tuer les juifs, des idéologues antisémites. C'est des idéologues tout à fait anti-anglais. C'est la revanche de l'extrême droite française sur le Front National. C'est très évident. Mais dans ce journal, comme dans tous les journaux, il y a publication de nouvelles, journaux de l'époque, publication de nouvelles, publication de feuilletons. Et parmi ces gens, il y a des gens qui n'ont pas pris des positions particulièrement ni collaboratrice ni antisémite pendant la guerre. L'idéologue numéro un de Je suis partout, Robert Brasillach, comme vous le savez, a été fusillé après la guerre, parce que lui, vraiment, c'était l'éditorialiste, et vraiment, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Mais on trouve dans cette liste des écrivains qui n'ont pas été marqués de manière très très précise. La plupart du temps, ils se sont quand même retrouvés sur les listes qui ont été établies après la guerre, puisqu'il y a eu des listes faites de gens qui ont collaboré à différents organes de presse de cette époque-là. Et il y a eu un certain nombre de procès, et des procès qui sont terminés par quelques fusillades, par quelques condamnations à mort. Sur quelques journalistes qui avaient eu une influence très importante. Donc ça, historiquement, on connaît les listes. Il y en a qui ont été ensuite blanchis. On a classé les auteurs. Il y avait plusieurs listes. Il y a un certain nombre de journalistes essentiellement, mais aussi quelques écrivains qui ont été exécutés pour fait de collaboration avec l'ennemi, et bon, ça, on trouve ça dans tous les livres d'histoire, c'est quelque chose de parfaitement reconnu maintenant. Et le grand spécialiste de l'épuration littéraire, Ayardal, va peut-être nous en dire plus.
Oui, simplement, Barjavel, lui, a été blanchi. C'est ça.
Oui, il y a la chaux vive. Hein.
Ah, je ne sais pas, hein, ça, je ne sais pas.
Alors, justement, Yal. Barjavel, est-ce que c'est une référence pour toi et qu'est-ce que ça t'évoque en tant qu'auteur de science-fiction ?
Je vais essayer de faire très simple. La dernière fois que j'ai vu Barjavel, c'était il y a 45 ans. Inutile de vous dire que je n'ai pas tout à fait tout en mémoire. Et la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'est à l'instant. C'est quelqu'un qui a eu une importance considérable dans le choix que j'ai fait par la suite de découvrir une autre littérature. Pratiquement même de la littérature, parfois. Et pour parler de Barjavel, pour vous exprimer ce que Barjavel m'inspire, je vais vous lire le prologue d'un roman que j'aurais bien aimé que Barjavel lise. Enfin, pauvre Barjavel, il l'aurait traité de tous les noms, bien sûr. Il serait même arrangé pour qu'on le fusille. Et voilà. C'est un garçon que vous ne connaissez pas, il s'appelle Roland C. Wagner. Il vient de sortir un bouquin qui s'appelle Rêve de gloire. Et pour moi, il est à l'antithèse de Barjavel. Ouais. Donc, je vais m'arrêter là et je vais lire Roland. Hein ? Ça vous embête pas ? Voilà.
On t'écoute.
Le meilleur hommage qu'on puisse faire à Barjavel, c'est se taire. En parlant de lui. Je suis allé à la pointe Pescade, comme dans la chanson, mais je n'avais avec moi ni vautrien, ni ami marocain. Il n'y avait pas non plus la moindre trace d'une roue de feu dans le ciel. La plage était déserte en cette saison, la peinture blanche s'écaillait sur des planches de la buvette fermée. La mer bleu-vert ondulait, doucement, dans le soleil d'hiver. Quelques barques retournées reposaient sur le sable. Assis sur l'une d'elles, un vieil arabe au crâne enturbanné de blanc buvait le thé en fumant une cigarette. Je me suis senti étranger. Je suis allé me planter face à la mer, la Mare Nostrum des anciens, chargée d'une histoire multimillénaire. Il faisait beau, mais plutôt frais. Dans les montagnes, la neige avait atteint par endroits une jolie épaisseur. La Kabylie et l'Aurès avaient décrété l'état d'urgence et réclamé l'aide internationale pour désenclaver les villages coupés du monde. 200 réservistes avaient quitté Alger le matin même en compagnie de 500 volontaires civils pour aller donner un coup de main. De son côté, la Tunisie envoyait des hélicoptères et le Maroc du personnel médical. La solidarité du Maghreb jouait une fois de plus, en dépit des antagonismes qui en opposaient les différents pays. Et la seule chose qui m'avait fait plaisir en ce foutu samedi matin était la rapidité avec laquelle on avait annoncé la participation de l'Algérois aux opérations de sauvetage et de développement. Au bout d'une dizaine de minutes, je me suis détourné du spectacle de la baie et de ses rochers. Là-bas, c'était la France, un pays désormais lointain et menaçant, une ombre inquiétante, tapie au-delà de l'horizon. Je lui ai tourné le dos et je suis remonté vers ma voiture. J'arrivais sur le parking lorsque je l'ai vu. Debout, au bord de la route, vêtu d'un costume blanc, appuyé sur une canne toute simple, à côté de laquelle une bouteille métallique scintillait dans la lumière du matin. Il regardait vers moi. À quelques mètres de là, une grosse Mercedes aussi blanche que ses vêtements étaient garée près de ma douche. Il m'a lancé un bref coup d'œil avant de reporter ostensiblement son attention sur ma voiture. Le vieillard a fait deux pas dans ma direction. J'ai ressenti une impression de déjà-vu, ou de déjà-lu. C'était étrange, cet homme en blanc et la plage vide, le chauffeur discret et le pêcheur nonchalant. C'était étrange et il manquait quelque chose. Je suis allé à la rencontre du vieil homme, je me suis incliné la main sur le cœur. Bonjour, monsieur Camus.
Rêve de gloire de Roland C. Wagner.
Et c'est ce que je peux exprimer de mieux sur Barjavel.
C'est assez ésotérique. Tu devrais lire le passage d'après.
Pierre, une petite réaction ?
Oh putain. Quand j'ai vu mon nom sur cette conférence, cette table ronde, j'ai dit pourquoi moi ? Pourquoi tant de haine ? Parce que, en fait, je n'ai jamais lu un livre de Barjavel. Donc je suis un peu emmerdé pour parler de Barjavel. L'an dernier, Stéphanie Nico, quand elle avait parlé de mon roman apocalyptique qui s'appelle Le Feu de Dieu, m'a dit « Très bel hommage à Ravage de René Barjavel ». J'ai dit « pardon, j'ai jamais lu Ravage de René Barjavel ». Et donc j'ai rendu un hommage involontaire sûrement, mais voilà. Donc moi je suis arrivé par la science-fiction, pas du tout par ces biais-là, et je me rends compte de mon inculture au fur et à mesure que je progresse dans le métier. À savoir que j'ai du mal à me relier à des racines françaises ou quoi que ce soit d'autre de science-fiction. Je l'ai découvert par les auteurs américains de l'âge d'or. Donc, ce qui fait que j'ai complètement zappé toute cette période-là. J'ai redécouvert les auteurs français du début du XXe grâce à Serge Eman et son livre Passeur de chimères. Et j'ignorais totalement qu'il y avait une telle production de science-fiction au début du XXe siècle. Donc ça m'a fait plaisir et de voir qu'elle était en plus riche, parfois truffé de colonialisme et tout ça, bon, avec les défauts de son époque, mais il y avait quand même une vraie inventivité à ce moment-là. Et voilà, j'ai recommencé à refaire ma culture science-fictive française par ces gens-là, et je ne suis pas encore arrivé à Barjavel, et je ne sais pas si je vais y arriver du coup, parce que Yann m'en a légèrement découragé. Alors, et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « j'adore ce que vous faites et j'adore Barjavel », et là, je commence à m'inquiéter sérieusement sur ce que véhicule mon propre bouquin. Bon, voilà, je vais peut-être en lire un jour pour voir ce que c'est, quoi. Là, j'ai une amie qui m'a passé un bouquin qui s'appelle La nuit des temps.
Oui, ouais, laisse tomber.
Bon, voilà.
Unanimité. Le jury est unanime.
Donc, voilà, je suis un peu désolé d'être un imposteur dans cette table ronde. Je ne vais pas vous mentir en disant que... J'ai vu qu'il y avait des points communs avec moi, quand même, qu'il est né le 24 janvier moins 29, et Yann aussi, tellement janvier, non?
Oui, mais c'est ce qui nous rapproche.
Et qu'il est mort, et que moi, comme je fais partie des étonnants classiques, je suis mort aussi. Et donc, c'est un autre point commun. Mais c'est tout. Puis je sais qu'il a fait pas mal de métiers avant de se lancer dans la littérature, ce que j'ai fait aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai en commun avec René Barjavel. Mais je suis désolé. Hein. Mais après, je voulais pas venir. Puis j'ai Jérôme, je dis, je vais pas venir à cette conférence parce que vraiment, j'ai rien à dire sur Barjavel. Il me dit, mais oui, si tu viens.
Mais si, il y a toujours quelque chose.
Et pour lui faire plaisir, je suis venu. Puis je sais qu'il y avait Maître Jacques, et donc il y avait la caution historique de la chose, et ça allait mieux pour moi.
Ont-ils raison de s'en méfier?
Non, mais ils font ce qu'ils veulent, c'est des grands garçons. Et comme tu as remarqué, j'ai pas tout à fait le même âge qu'eux. Comme je suis un vieux sage, je peux prendre avec certains auteurs des distances que je n'arrive pas à prendre avec d'autres. Moi, je préfère réserver ma haine à des personnages comme Céline, comme Brasillac, comme Rebattet, comme ceux qui, plus récemment, essaient de réécrire l'histoire en se donnant le beau rôle. Barjavel, c'est... Il y a deux romans qui, pour moi, ont été importants et qui sont des espèces de météores à un moment où la science-fiction est désespérément vide en France, puisque l'auteur qui, avant, a fait un peu de science-fiction, de ce qu'on appelle la seconde génération, c'est Jacques Spitz, qui écrit dans les années 30 et qui est complètement oublié aujourd'hui, mais qui, pendant... pas mal d'années, a publié des romans de science-fiction chez Gallimard. Donc, un éditeur ayant pignon sur rue. Et puis surtout, la science-fiction du début du siècle en France est d'une extraordinaire richesse. On ne sait pas assez que deux des auteurs de cette première génération sont des auteurs de génie qu'on devrait comparer absolument, en tout cas pour l'un d'entre eux, aussi important que Wells pour la science-fiction moderne, c'est J.H. Rossignené. Il a un éventail de thèmes absolument extraordinaire, et c'était un remarquable écrivain. C'est celui qui a écrit des rétrocipations, Le félin géant, etc. Le deuxième, c'est Maurice Renard, qui est plus directement lié à Wells et qui présente la particularité d'avoir été aussi un théoricien du merveilleux scientifique. Pierre vous a parlé de cette anthologie de Serge Lehmann, où on a à la fois des auteurs populaires, puisque le début de la science-fiction se fait essentiellement dans des collections populaires, mais un texte d'un des grands auteurs français du XXe siècle, André Mauroy, qui s'appelle Le Peseur d'âme, et qui est un texte absolument éblouissant. Mais bon, peut-être que là aussi, tu veux brûler mon roi en place publique.
Vous voulez que je vous lise un autre extrait de
Est-ce que ça veut dire qu'il, alors que Ravage était encore au programme scolaire, je ne sais pas s'il l'est encore, mais tout du moins il y a quelques années, parce que moi aussi je vieillis, mais à mon époque, il y a fort longtemps, Ravage était au programme en quatrième. Est-ce que ça veut dire que, malgré sa présence dans des programmes scolaires, il n'en reste rien aujourd'hui?
Non, Ravage et le voyageur imprudent restent des lectures intéressantes pour qui s'intéresse à la science-fiction. D'ailleurs, ils sont régulièrement réédités. Voyageur imprudent est toujours disponible chez Folio. Après, le reste de l'œuvre, c'est autre chose. Ouais.
qui a eu l'idée de cette conférence.
Est-ce que
quand le pendre sur la place.
Est-ce que vous avez un avis sur Barjavel? Est-ce que vous avez lu Ravage et que vous avez aimé ou vous avez détesté? N'hésitez pas.
Personne n'osera venir, là, je pense.
Je suis venue à cause de mon mari.
Ouais, bah, moi, je suis tenez, je vais vous donner.
Je parle fort.
Mais non, parce qu'on enregistre. Ah, et il y a des gens dans le fond de la salle. Car en plus, ils sont nombreux, les gens. Alors, je fais partie d'une génération qui, comme vous avez dit, a entendu parler de Barjavel à l'école. Mais ce qui m'a interpellé, c'est la dimension science-fiction de ce personnage, parce que c'est pas vraiment celle qu'on nous présentait. Mais j'avoue honnêtement, comme par contre lui, j'ai beaucoup lu Pierre Bordage, je n'en ai pas lu. Donc ce qui m'intéressait, c'était justement de savoir quel était le rôle de cet écrivain dans la science-fiction dite française, que je ne savais pas aussi, entre guillemets, ancestral, puisque vous parlez d'auteurs de 1920, 1930.
Et avant.
Et même avant
la Première Guerre mondiale. Maurice Renard et Ross Niené, c'est avant la Première Guerre mondiale, pour pas mal de leurs livres.
Donc, ma foi, j'avoue que je reste un peu sur ma faim, pour ne pas dire autre chose. Mais bon, voilà, quoi. Un avis sur Barjavel, je vais avoir du mal, parce que j'avoue ne pas connaître, au-delà de ces interrogations, cet écrivain.
Ah. Il y a une petite précision que je peux apporter, c'est le fait que Ravage et Le Voyageur Imprudent, quand ils sont sortis, portaient un sous-titre qui donne une indication sur le fait, la manière dont Barjavel les avait conçus, puisqu'il a écrit un roman extraordinaire, et en faisant allusion très précisément à quelqu'un qui a écrit Les Voyages Extraordinaires, Jules Verne, qui est le père de la science-fiction française.
Je fais aussi partie d'une génération qui a dû lire Barjavel à l'école. Barjavel qui maintenant, pour un certain nombre de théoriciens, est un de ces auteurs comme George Orwell ou Aldous Huxley qui n'ont jamais écrit de science-fiction. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était aussi le sexisme, la manière dont il traitait les femmes, et la manière dont il traitait l'autre. Et moi, ça m'avait profondément choqué.
Quelqu'un veut.
Ah, j'ai de moins en moins envie de le lire.
Je pense pas qu'il soit sexiste. Par contre, c'est vrai que c'est dans le contexte d'une autre époque. Il suffit de lire les chroniques des années de la Lune pour s'apercevoir de son humanité. Et puis justement, il n'est pas sexiste du tout. Il y a un petit passage où il parle des élections et puis dit qu'il n'y a jamais rien de nouveau dans les programmes politiques. Et lui dit, tiens, si je me présentais, je prendrais telle et telle mesure. Et une de ses premières mesures en politique intérieure, c'est de légaliser la pilule.
Il a défendu, la loi sur l'avortement. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le dit généralement, hein. Il a été l'éditorialiste du journal du dimanche pendant des années et des années, et il alterne des positions qui sont des positions de vieux con et des positions de vraiment des positions de progrès au sens sociétal. Donc porter un jugement sur un individu, il y a d'une part un écrivain à ses œuvres, de l'autre il y a un journaliste qui écrit pour le journal du dimanche. On sait bien évidemment que c'est pas l'humanité, quoi. Hein. On sait où il se situe dans les champs politiques. Mais on ne peut pas réduire Barjavel à quelques phrases. Bon, il a pris des positions politiques qui sont des positions politiques regrettables, et on a pris d'autres qui étaient des positions politiques plutôt courageuses, en particulier sur l'avortement à ce moment-là. Il suffit de regarder à quel point il y a une tendance actuelle pour revenir sur la loi Veil pour se rendre compte que c'était pas forcément très évident.
Bonjour, moi j'ai lu pas mal de Barjavel, non pas à l'école mais par plaisir, parce que je suis tombé dans la science-fiction quand j'étais très petit et je n'en suis pas sorti. Et Barjavel, pour moi, a toujours été un auteur à part. Bon, loin d'être sexiste, je vous invite à lire Le Grand Secret, dans lequel il décrit la malédiction de l'immortalité comme une maladie se répandant sur la Terre. Et les femmes y jouent un rôle extrêmement important, ce qui, à mon sens, rayonnant tout argument de sexisme. Ce que l'on peut lire de sexiste dans Ravage ou Les Voyageurs imprudents, pardon, c'est le sort qui arrive aux êtres humains, et entre autres à la partie féminine de l'humanité, malheureusement, bon, qui subit quelques mutations, dirons-nous. Mais sexisme, non. Je ne crois pas qu'on puisse qualifier Barjavel de sexiste, ni dans La Nuit des Temps non plus. Non. Voilà. Je pense que c'est un auteur de science-fiction. Ce que je pourrais dire de plus grave sur lui, c'est que c'est un auteur de science-fiction à part, qui occupe vraiment une place à part dans la science-fiction française. Voilà.
Vous voyez qu'il y avait besoin d'un micro, il y avait des questions au fond de la salle.
Oui, bonjour, merci. En fait, je suis entrée dans la science-fiction par La Nuit des Temps, parce que je ne savais absolument pas que c'était un livre de science-fiction quand j'ai commencé à lire. Et ensuite, j'ai lu énormément de Barjavel, et j'ai fait lire Ravage à des élèves de 3e. Et c'est un livre qui a beaucoup plu, qui a beaucoup interpellé les élèves. Ensuite, ils ont posé beaucoup de questions, et c'est une séquence sur laquelle ils ont vraiment aimé travailler. Donc c'est vrai que pour moi, Barjavel est vraiment un auteur de science-fiction qui m'a fait découvrir la science-fiction et qui m'a apporté énormément au niveau du style, au niveau des idées, même si bon, on peut lui reprocher certaines choses, effectivement. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué mon parcours littéraire, qui était par ailleurs très, 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 très classique.
Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir ? Non.
Bonjour, alors moi j'ai dû lire à peu près tout Barjavel, donc j'ai pas été dégoûtée. Et je voulais dire que quelque chose qui me plaît vraiment chez cet auteur, c'est la langue. J'adore la façon dont il écrit, parce qu'il a une manière très très fluide et entraînante. Et je trouve que son talent de conteur ressort particulièrement dans L'Enchanteur, qui est un petit livre sur Merlin l'Enchanteur, absolument rien à voir avec la science-fiction, mais je trouve que sa réécriture d'une histoire que tout le monde connaît est particulièrement belle.
Est-ce que quelqu'un a encore un avis ou une question à poser éventuellement au docteur ? Faut-il encore lire Ravage ?
Écoute, Jérôme, j'ai animé un débat où je demandais gentiment que le lecteur de genre fasse preuve de temps en temps d'esprit d'ouverture. Il y a un ghetto de la littérature de genre qui vient des lecteurs eux-mêmes, et je me suis fait rappeler à l'ordre méchamment par un auteur qui m'a dit « Mais le lecteur a la liberté de lecture, donc il faut laisser la liberté de lecture au lecteur, et en votre âme et conscience, suivez Pierre Bordage, suivez Ayerdal, vous lisez Ravage, peu importe, vous êtes libre. »
Est-ce que quelqu'un a une dernière chose à ajouter, ou est-ce qu'on coule le débat sur cette magnifique phrase?
Ah, on coule le débat.
Eh bien, merci à vous et merci aux auteurs.
Ah, non.
J'aurais juste une remarque, parce que finalement, je suis une inculte complète de ce monsieur, mais je remarque que ce sont les jeunes qui sont en train de défendre monsieur Barjavel, apparemment. Donc, est-ce qu'ils ont plus de recul que les anciens?
Bon, alors, je vais un peu le défendre aussi, d'un certain côté. Non, la seule chose que je veux dire, moi, je suis le lecteur de base. Ça fait déjà 50 ans que je lis de la science-fiction. Donc, je lis tout ce qui passe en science-fiction, que ce soit les auteurs du début du 19e siècle, du 20e siècle plutôt, ou bien l'ensemble, quoi, de tout ce qui peut me passer sous la main. Donc un jour, j'ai pu avoir un volume où 5 romans de Barjavel étaient regroupés. Bon, j'ai lu le livre, les 5 livres, voilà, les 5 romans. Et puis,
Ben, j'ai trouvé qu'on pouvait suivre l'histoire, etc. Je ne suis pas lancé dans des grandes théories philosophiques, etc. Tout ça, non. Je lis Barjavel. Bon, moi, les auteurs qui m'intéressent, c'est Jack Vance, c'est Kavanaugh Smith, c'est Monsieur Bordage, Monsieur Ayartal en français, etc. Mais énormément de choses. C'est une facette en plus. Je ne connais pas spécialement Barjavel. Bon, moi, je restais sur les histoires. Je me laissais entraîner par les histoires. Et puis, j'avais mon opinion par rapport à tout ça. Mais j'ai tellement lu qu'en réalité, vous me faites envie de relire tout Barjavel parce que je ne me rappelle plus trop Ravage et compagnie et tout ça. Donc, je prendrai une petite période pour relire tout ça. Mais actuellement, j'ai beaucoup de choses à lire avec vous deux.
Tu nous préviens à dire en amont que Pierre et moi en profitions pour prendre une année sabbatique.
Comment dans 2 ans, avec un peu de chance, si on n'a pas encore Sarko, je serai à la retraite. Hein.
Oups. Est-ce que non mais c'est normal, l'aura dépassé.
Alors simplement pour vous qui avez aimé Ravage, est-ce que le fait par exemple l'épisode Je suis partout, alors pour l'autre mot effectivement, ces questions sur cette période, sur la collaboration, est-ce que ça vous interpelle ou est-ce que vous vous en foutez complètement de ce qui a pu se passer pendant cette période là? Le micro est à la fin du festival. Je vais juste vous demander de parler très fort.
Moi, j'ai lu Barjavel, effectivement, quand j'étais jeune. J'avais commencé par Claude Noir. Alors, évidemment, quand je suis passé à Barjavel, le mot du style.
Saut qualitatif, oui.
J'ai découvert la science-fiction littéraire,
ouais.
Littérature. Et je ne savais pas, et que je suis un peu en retard aujourd'hui, je ne savais toujours pas qu'il y avait un problème de collaboration, tout ça. Personnellement, ça ne m'a pas gêné de dire l'auteur. Peut-être que maintenant, ça serait plus compliqué ou je lui dirais différemment en sachant. Mais très honnêtement.
Il n'a pas été accusé de collaboration. Hein. Soyons clairs.
Très franchement, ça choque pas. En tout cas, ça se trouve pas. J'ai pas l'impression que ça soit dans ces ouvrages de science-fiction.
Moi, je trouve que dans tout ce qu'il a écrit, enfin, que j'ai lu, je n'ai pas tout lu, mais il n'y a rien de nauséabond.
Mais je pense que c'est comme beaucoup d'auteurs, on peut juger de leur vie, on peut juger de leurs ouvrages, un petit peu, je ne sais pas, comme Louis-Ferdinand Sénil ou Bernard-Henri Lévy.
J'ai parlé de Céline.
Bien fort.
Tu vis dangereusement, Jérôme.
Hein?
Tu vis dangereusement.
Allez-y, bien fort.
Alors, à propos de cet épisode de la collaboration, à participer à ce journal, mais est-ce qu'il avait le choix, parce que c'était quand même pendant la collaboration, donc il y a des restrictions, il y a toutes sortes de restrictions au niveau de ouais. Ce monde, il y a des publications.
Oui, il y a des auteurs qui se sont... Bon, il existait à l'époque des auteurs qui vivaient de leurs plumes, beaucoup plus qu'il n'en est pas qu'il en vit aujourd'hui. Il se trouve que, comme la plupart des gens qui vivent de leurs plumes, ils vivaient surtout, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, les gens écrivaient beaucoup de nouvelles pour la presse et pour les magazines et les feuilletons. Et donc, à partir du moment où la face de la presse change, et c'est le cas dès l'invasion de la France, hein, les Allemands prennent le contrôle sur tout ce qui se publie à Paris dans la zone occupée, et Pétain fait la même chose pour la zone nono à ce moment-là. Il y a des auteurs qui ont continué à gagner leur vie en écrivant des textes, des nouvelles ou des fictions, disons, de manière globale, et en les publiant dans les canards de l'époque. Hein. Après, il faut juger de ceux qui ont joué un rôle actif, à la fois en tant qu'éditorialiste, journaliste, ou ceux qui ont, dans des fictions, fait des écrits violemment antisémites, ont pris des positions pro-allemandes et anti-anglaises, ça c'est autre chose. Mais ceux qui ont écrit des textes dont l'idéologie n'est pas évidente, il y en a plein. Moi, si je vous donnais la liste des noms que j'ai relevés dans l'année, j'ai consulté 2 années. Je suis partout, parce que je travaillais sur un auteur dont une nouvelle a été publiée dans Je suis partout. Ça, j'avais la coupure de presse et je voulais voir s'il avait d'autres nouvelles publiées, etc. J'étais surpris par la quantité de noms d'auteurs que je connaissais qui s'y retrouvaient, mais la plupart de ces auteurs n'ont jamais été poursuivis pour des raisons idéologiques. Bon, c'est plus compliqué. Hein. Ceci dit, est-ce qu'ils avaient raison de donner des textes à des revues telles que Je suis partout ? Moralement, la question se pose quand même.
Oui, donc je ne connais pas, donc j'ai pas très bien, j'ai pas beaucoup lu, même pas du tout Barjavel. Par contre, j'ai beaucoup lu Tintin. Et on a eu un petit peu le même genre de, entre guillemets, procès avec Hergé. Je vais répondre à Vincent, à Jérôme, pardon, oui, enfin, monsieur Vincent, je vais lui répondre très simplement. Je m'en fous pas, c'est pas le problème de savoir si je m'en fous ou pas. Je suis un amateur fou de Tintin. Je me fais ensuite une idée qui m'est propre de ce qu'il a écrit, comment il l'a écrit, comment il l'a illustré, et ainsi de suite. On peut faire ce qu'on veut. Je pense qu'avec M. Barjavel, ça doit être un peu la même chose. Et tout à l'heure, vous disiez on est des lecteurs libres. Je pense qu'on est aussi, entre guillemets, des censeurs libres. Après, à chacun de se faire. Donc, c'est pas que je m'en fous. Ça m'interpelle, je découvre la chose, mais j'en ferai pas quelque chose de foncièrement Barjavel c'est fini, terminé, parce qu'il ne correspond pas à ma manière de voir ou de penser. Voilà.
Il y a une petite différence entre Hergé et Barjavel. Hein. Hergé, il était rexiste.
Rexiste.
C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il appartenait à l'extrême droite. Nazis belges, et les rexistes ont été responsables d'assassinats en pays wallon, et un des leaders rexistes était le frère de Georges Simenon, Christian Simenon, qui à la libération était poursuivi, et il est venu voir son frère en disant si je retourne en Belgique ils mettent devant un peloton d'exécution. Il avait fait exécuter une bonne quinzaine de civils quelque part, et son frère lui a dit écoute, il n'y a qu'une solution, engage-toi dans la Légion étrangère. Ce qu'il a fait, il est parti en Indochine, là il s'est fait descendre, et la mère de Simenon, qui préférait Christian à Georges, a toujours voulu à Georges Simenon d'avoir envoyé son frère, envoyé Christian se faire tuer en Indochine.
C'est un parallèle un peu différent. Je fais souvent des parallèles entre la littérature et la musique. Des tas de compositeurs étaient pas forcément placés politiquement correctement. Il y avait des tas de compositeurs qui étaient favorables au nazisme et autres. C'est pas pour autant qu'on met leur musique à part. Et je pense que ça devrait être la même chose pour la littérature.
C'est votre opinion, en fait.
La personnalité qui fait que leur musique reste, et c'est pareil pour la littérature, leurs livres restent des belles.
Vous faites allusion à Wagner. Là, il faudrait que vous renseigniez exactement la musique de Wagner, on peut l'écouter, mais le comportement de Richard Wagner pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas très glorieux.
Non,
c'est
bien ça.
En fait, c'est ça. Non, mais on a aussi Tino Rossi, Maurice Chevalier, etc. Je veux dire, on a quand même un certain nombre de gens qui, sans collaborer ouvertement et sans être sans être les extrémistes nazis qu'ils côtoyaient, se sont
profité.
Très enrichis de la manne allemande. Enfin, voilà. Je sais pas, les goûts et les couleurs, les coups et les douleurs, chacun a fait ce qu'il en veut. Je suis comme Jacques, pas un grand amateur de Jacques Ferdinand Céline. C'est le moins. Pourquoi j'ai dit Jacques ?
Est-ce que tu vas m'insulter ?
Ouais. Maintenant, je dois reconnaître qu'il y a un truc qu'il a fait vachement bien. Il écrit son nom sans faute d'orthographe. Et c'est super plaisant. quoi. J'ai une saucisse là, j'ai non, parce que j'ai lu le reste, par contre, il y a des fautes partout. Hein.
Bon.
Une dernière réaction et puis on va clore ce débat.
Mais en fait, toute la discussion là, etc., c'est la question de savoir si on sépare l'écrivain de l'homme derrière. Et les écrivains sont des hommes comme les autres, donc je pense qu'il y a des écrivains qui peuvent être des salopards ou des ordures finies, ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent avoir un style à côté. Après, je pense que selon les personnes, soit l'un rend impossible l'autre, ou soit on est capable de faire... Moi, Céline, je déteste l'homme, etc. Je suis capable de regarder un peu le style. Ça ne m'empêche pas, si tu veux, de détester le bonhomme derrière et d'avoir... Alors que j'ai un copain, par exemple, qui va essayer de me sauver le bonhomme et tout. Je lui dis non, tu ne peux pas dire ça. On peut discuter des textes, etc. Après.
Ouais, sauver le bonhomme, c'est difficile.
Il n'y a pas de discussion.
Le hic, c'est que, déjà, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'existe aucun écrivain apolitique. Les auteurs qui se croient apolitiques sont juste des gens qui acceptent le monde tel qu'il est, qui le montrent tel qu'il est, sans la moindre critique. Maintenant, Sartre, je vais vous la refaire, hein, normalement ça fait 5 fois par an et là j'en suis, hein, alors j'ai déjà dépassé le quota, tant pis. Sartre a écrit quelque chose d'extraordinaire, c'est que la fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent. Quand on fait le choix consciemment de soutenir des idéologies totalement inqualifiables ou inhumaines, je pense que le lecteur doit faire lui le choix en fonction de son amour ou de son... des amours pour l'humanité, de lire ou de ne pas lire.
Et je te répondrai aussi, connais ton ennemi aussi. Donc même dans le cadre là, je trouve que ça...
Mais on va interrompre le débat parce que je vois Jérôme tétaniser en disant on ne peut pas interrompre Yann, il y a des gens qui attendent pour le débat suivant. On peut aller dehors pour suivre le débat, en venir au coup... Tout est possible.
Merci à vous.